jour, de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs. En cette journée nationale de commémoration des mémoires de la traite de l'esclavage et de son abolition, pour donner la parole aux philosophes, aux historiens, aux historiennes venus de toute l'Afrique pour participer à Kinshasa en avril dernier à un colloque international et interdisciplinaire si justement intitulé « Mémoire blessée, promesse inachevée » autour de la pensée du philosophe Paul Ricoeur. Pourquoi et comment l'œuvre de Ricoeur et son ouvrage majeur, La mémoire, l'histoire et l'oubli, fait-elle écho et résonne-t-elle avec les questionnements des penseurs du continent, tout particulièrement en République démocratique du Congo, meurtris, blessés à la fois par le passé colonial et par le présent des guerres et de la barbarie. Comment penser, ENSER, et comment penser, PANSER, toutes ces blessures? Comment sortir du ressentiment sans s'arrêter évidemment d'abord sur les promesses non tenues? Comment convertir l'hostilité des mémoires en hospitalité et faire advenir le grand dialogue des cultures annoncé par Ricoeur pour ouvrir d'autres horizons, d'autres imaginaires et une autre réalité sur le continent? Autant de questions ouvertes et creusées pendant 3 jours à l'Institut français de Kinshasa, à l'initiative de notre invité, le philosophe Olivier Abel, et du Fonds Ricoeur de l'École des hautes études à Paris, en lien avec les universités et les universitaires africains, autour de la question « Comment penser les mémoires blessées ?» Bienvenue de Paris à Kinshasa.
Viens, je t'emmène avec moi, la nuit j'ai rêvé que de ça. Construire une villa à Kinshasa, tu plierais les mapes, les réinvestir là-bas. Construire une villa à Kinshasa, les faits divers parisiens les plus sombres pour faire partie des plus grands de ce monde. Les faits divers parisiens les plus sombres pour faire partie des plus grands de ce monde. Viens, je t'emmène avec moi là-bas. Aller-retour Paris-Kinshasa, je rentre ce soir. J'ai vu ski tous les villes, c'est aéroport de Djibouti. J'ai des mapes à coffrer comme un guiri. 243, j'ai le BO, le drapeau. On n'est pas dans les ragots. Topi Milibanda pour trouver les euros. Pour finir Nicolo tout en haut du tableau. Oh, viens, yeah, je t'emmène avec. Viens, yeah, je t'emmène avec. Viens, yeah, je t'emmène avec.
De retour de Kinshasa pour être en direct avec nous. Bonjour Olivier Abel.
Bonjour Caroline.
Vous êtes professeur de philosophie et d'éthique à la faculté de théologie protestante de Montpellier. Philosophe engagé, vous avez été l'élève d'Emmanuel Lévinas, l'ami et le disciple de Paul Ricoeur, auquel vous avez consacré plusieurs ouvrages. Et c'est donc vous qui êtes à l'initiative de ce colloque interdisciplinaire et international autour de la pensée de Paul Ricoeur et des horizons africains qui s'intitule « Mémoire blessée, promesse inachevée » et qui s'est tenu avec succès à Kinshasa les 25, 26 et 27 avril dernier, réunissant une soixantaine d'intervenants de plus de 15 pays différents, des penseurs, philosophes, historiens, anthropologues, mais aussi des artistes, des écrivains, des juristes, des psychothérapeutes, des théologiens. Il faut dire que ce questionnement sur la mémoire, l'histoire et l'oubli, pour reprendre le titre du dernier ouvrage majeur de Paul Ricoeur, philosophe humaniste, penseur anticolonial engagé dès 1947, a de quoi résonner sur le continent en général et en RDC, en République démocratique du Congo en particulier. C'est ce que vous aviez d'ailleurs constaté, Olivier Abel, lors d'une précédente édition plus modeste. Pourquoi et comment la pensée de Paul Ricoeur est-elle aujourd'hui vive, inspirante, fructueuse en Afrique?
Ah oui, ben je pense, d'abord je m'en suis aperçu il y a longtemps, en 2006, j'avais été à Kananga, au centre de la République démocratique du Congo, pour des cours que je faisais là-bas dans une minuscule petite faculté protestante, vraiment très 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 pauvre, très précaire. Et j'avais rencontré l'évêque de la ville de Kananga, qui était lui-même au pied d'une église absolument dévastée, et qui m'avait dit « Ah, moi j'aime beaucoup lire Ricoeur parce que Ricoeur me donne du courage. » C'est une très belle phrase. Et j'ai réalisé, après, en parlant autour de moi, qu'il y avait énormément de lecteurs de Ricoeur au Congo et un peu partout en Afrique. Vous voyez, je parle d'un évêque. Je pense que le milieu catholique, Ricoeur est protestant de tradition, on va dire, comme ça. Mais enfin, il est beaucoup plus ample, évidemment.
C'est vraiment une pensée d'ouverture.
Et puis, philosophiquement, il est toujours quelque part agnostique, Ricoeur. Mm-hmm, il fait mm-hmm. une séparation très ancienne, vraiment une séparation de sa philosophie. Mais voilà, je pense que le monde catholique s'est largement approprié Ricoeur. Et puis alors, il y a eu aussi, Ricoeur a eu beaucoup d'élèves africains à Nanterre. À la Sorbonne avant, je ne sais pas, ou à Strasbourg encore avant quand il était, ça je ne sais pas, mais j'en ai identifié plusieurs à Nanterre qui sont devenus des professeurs importants de plusieurs universités africaines. Et il y en a à Kinshasa, comme Léon Mantagila, par exemple, qui dirige les éditions de l'Harmattan à Kinshasa, qui a écrit un livre il y a déjà plusieurs décennies sur le mal chez Ricoeur et chez les Bantous, par exemple. Vous voyez, bon, c'est un gros travail déjà qui... Et là, c'est l'université, c'est pas du tout le catholique, c'est l'université de l'UNIKIN, l'université de Kinshasa, voilà. Donc voilà, il y a eu plusieurs portes d'entrée pour Kinshasa, et puis pour d'autres pays, le Cameroun, le Togo, le Bénin, etc.
Bon, et vous pensez que c'est aussi cette pensée, on pourrait dire, de l'ouverture, du dialogue des cultures, oui. de Ricoeur, qui a aussi été quand même anticolonialiste dès la première heure. Enfin, voilà. Il y a ça aussi.
Ricoeur, c'est quelqu'un qui est sorti de la guerre, alors qu'il a été 5 ans prisonnier dans des camps. Quand il sort de camp, un an plus tard, il dit, mais et si moi j'étais le nazi d'un autre. Mmh. Et si la condition coloniale à laquelle nous soumettons toutes nos colonies, est-ce que ce n'est pas la même chose que ce que le nazisme a voulu faire chez nous? Est-ce que, voilà, bon, ce qui est très brutal. Mmh, hein, mmh. Il retourne Ricoeur, c'est quelqu'un qui ne cesse de retourner les points de vue, d'essayer d'inverser les points de vue pour voir ce que ça fait que d'être de l'autre côté, si je peux dire. Ça, c'est sa grande force et sa grande intelligence, je dirais, politique, à vrai dire. Hein, bon, et puis culturelle, au sens très profond du terme. Tiens, en fait, pour lui, il n'y a pas de point de vue de surplomb. On rentre dans l'universel par la conversation des universaux portés par chaque culture. Et je pense que voilà, ce point de vue-là, dans lequel il n'y a pas de point de vue de surplomb, qui est pratiquement le point de vue de Bruno Latour,
philosophe sur l'environnement, voilà, humain et non humain,
qui a le même point de vue. C'est-à-dire, en fait, on est toujours d'un côté. On peut pas, y a pas, la science ne nous place pas sur une sorte de piédestal en dessus qui nous permettrait de parler d'eux. Il faut parler avec. On est ensemble. Il faut dialoguer. On est dans notre condition, elle est dialogale, d'une certaine manière.
Elle est dialogale. Et à Kinshasa, vous avez dialogué, disputé aussi, mais dans le beau sens philosophique du terme. Dans le bilan que vous m'avez fait, Olivier Abel, vous avez cité une autre philosophe extraordinaire, Simone Weil, dans ses réflexions sur la barbarie. C'était en 1937. Simone Weil, je la cite, « On est barbare avec les faibles ». Voilà une phrase qui peut résonner en RDC. Il faudrait que la RDC cesse d'être faible, que l'Afrique cesse d'être faible.
C'est ça. Et en fait, elle présente ça presque comme une loi. Une loi de faire. On ne peut pas faire autrement. Qu'on le veuille ou non, on est barbare avec les faibles. Donc, comment est-ce qu'il faut faire? Alors, on peut explorer le côté qu'il faut que personne ne soit trop faible. Il y a des pays qui sont trop faibles, il y a des populations qui sont juste trop faibles. Il y a peut-être des espèces animales qui sont trop faibles. Il y a qu'est-ce que c'est que la faiblesse? Bon, donc il faut armer les faibles. Bon, et puis peut-être aussi, je dirais de l'autre côté, il faut déprotéger les forts. Je pense que le propre des forts, nous sommes hyper protégés. Nous nous protégeons. C'est pas que nous cherchons à écraser, mais seulement nous sommes inaccessibles. Ils peuvent pas nous faire de mal parce que nous sommes inaccessibles. Et donc du coup, il n'y a pas de politique possible, il n'y a pas de pacte politique possible parce que les plus forts sont inaccessibles aux plus faibles. Et je pense que c'est ça la situation dans laquelle on est. Donc voilà.
Et c'est contre ça que vous avez voulu aller. Hein.
C'est ça. Cette barbarie, je me dis non, cette barbarie, il faut ici d'en déconstruire tous les mécanismes et les mécanismes sur tous les sujets. C'est ces mécanismes de l'extrême faiblesse.
Autour de la question comment penser, repenser les mémoires blessées depuis Kinshasa, alors nous allons entendre au cours de cette émission quelques-unes des voix qui s'y sont exprimées, pas toutes, on ne peut pas malheureusement. Oui. Je sais que vous avez été impressionné, Olivier Abel, par l'écrivain André Yocallier, ou encore par l'historien Isidore Ndayel à Kinshasa, qu'on n'a pas réussi à joindre. Mais je vous propose tout de suite d'écouter au micro de notre reporter Charlie Dupio, une philosophe camerounaise qui elle aussi vous a particulièrement inspiré. C'est Amélie Aristel Cassie. Elle est enseignante de philosophie à l'École normale supérieure de Yaoundé. Elle n'était jamais sortie du Cameroun avant de se rendre à Kinshasa pour ce colloque. M'est avis qu'on devrait entendre parler d'elle. Je vous rappelle son nom, Amélie Ekassi, jointe à Yaoundé par Charlie Dupio.
Ce colloque a été une expérience enrichissante pour moi parce qu'il a été organisé dans un pays particulier, la RDC, qui a connu plusieurs décennies de guerres, de massacres. Les mémoires sont encore vives, les mémoires des victimes sont blessées, elles sont manipulées parce qu'il n'y a pas, voilà, justement, un effort pour réparer, pour rendre justice à ces mémoires qui ont été blessées, multipliées par les multiples guerres et par des multiples crises. Et je disais donc, grâce à Ricoeur, j'ai constaté que l'intelligence a de ce pays et la société civile Ils ont le courage d'affronter de manière objective le besoin de mémoire, le devoir de mémoire lié à une idée de justice. Dans ce pays, j'ai vu de manière pragmatique comment ils articulent le lien de la mémoire, qui est blessée certes, mais aussi à l'histoire dans laquelle il faut nécessairement restituer la distance historique offerte pour pouvoir apporter un certain éclairage, une certaine vérité. Et ce n'est qu'à partir de là qu'on peut avoir l'oubli qui passe par le pardon, mais surtout par la réparation en fait.
Qu'est-ce que vous mettez derrière les mots « mémoire blessée » ?
Pour moi, une mémoire blessée, c'est une mémoire qui a subi des injustices. Ça peut être des sévices corporels, donc des viols sur des femmes affamées, des enfants ou psychiques. C'est une mémoire qui est incapable de faire le travail, le nécessaire travail du deuil, qui est obligée, parce qu'on lui dénie la justice, on lui refuse la justice, qui est obligée de ressasser de manière compulsive le passé, parce qu'on ne veut pas lui rendre cette justice qui pourra guérir cette mémoire. Donc c'est cette articulation que Ricoeur fait entre la mémoire qui est nécessaire, l'histoire aussi, et le pardon qui passe par la réparation qui me semble important dans la résolution des conflits, si pardon il peut y avoir.
Est-ce que vous avez une question pour notre invité Olivier Abel ?
En quel sens Ricoeur nous parle-t-il en fait ? Je pose cette question pourquoi ? Parce qu'il y a une mode épistémologique et théorique issue de la décolonisation des savoirs à laquelle je ne souscris pas, mais qui voudrait que toute pensée soit située dans une race, un espace, une classe sociale et un genre. Pour moi, à terme, cette façon de voir le monde crée l'incommensurabilité des cultures et empêche le nécessaire dialogue entre les cultures. Mais si nous suivons cette logique, je voudrais savoir ce qu'il y a dans la pensée de Ricoeur, dans le schéma conceptuel de Ricoeur qui parle aux Africains. Qu'est-ce qui justifie le fait que ce soit légitime pour nous, Africains, de penser avec, grâce ou contre Ricoeur ?
Étonnante, magnifique question, ouais. Soulevée par la philosophe Amélie Cassis depuis Yaoundé. Qu'est-ce qui justifie Olivier Abel, alors dit-elle pour nous Africains, de penser avec, grâce ou contre Ricoeur?
Ouais.
Parce que les trois sont possibles.
Oui, les trois sont possibles et c'est très fort de la part d'Aristèle et Cassis, que, en effet, c'est une personne que j'aime beaucoup, que j'ai découvert l'an dernier lors du premier colloque sur Ricoeur qu'on avait fait l'an dernier. Le fait qu'on puisse penser contre Ricoeur, ça montre qu'on est au même niveau, si je puis dire.
Et oui.
Ça veut dire qu'on est rentré dans le dialogue des cultures dont je parlais tout à l'heure, dont nous parlions tout à l'heure. Et je pense que c'est ça que cherche Aristèle. Ce qui veut dire qu'on n'est pas dans des cultures incommunicables, intraduisibles. On n'est pas chacun muré dans des traditions qui ont qui auraient un génie absolument incommunicable. Non, on est dans la traduction. Et Ricoeur, c'est vrai, la force de Ricoeur, ce qui justifie, à mon avis, le fait qu'on puisse faire ça avec Ricoeur, c'est que Ricoeur, son souci perpétuel, c'est la traduction. C'est l'air scientifique, on pourrait dire, c'est un peu, de manière un peu savante, l'herméneutique. Mais en fait, c'est la traduction. Comment est-ce qu'on traduit ? Ça veut dire que...
Mais comment est-ce qu'on passe d'une pensée à l'autre, d'une culture ? Comment on peut, à égalité ?
C'est ça, à égalité. On est chacun de son côté, mais on peut se comprendre, on peut, par un travail de traduction, arriver à se traduire les uns dans les autres et à partager les mêmes questions. Si on se comprend, ça veut dire qu'on peut partager les mêmes questions. On peut dire que si on se comprend, ça veut dire qu'on peut faire des bébés ensemble. Mais on pourrait dire qu'on peut partager les mêmes questions.
Même si on n'est pas d'accord, même si on n'a pas les mêmes conditions. Il y a aussi cette éthique politique de Ricoeur qui semble essentielle, qui peut parler aussi, évidemment, dans ces pays, notamment sur tout le continent africain.
C'est-à-dire, en fait, l'éthique politique de Ricoeur, ce qui est original, je dirais, c'est qu'en même temps, il sait très bien que le politique peut très bien être machiavélique, mais il cherche à montrer que sous le niveau machiavélique, il y a un niveau plus profond qui est plus orienté vers le bon. C'est-à-dire qu'on a besoin de penser des institutions justes, de penser des institutions bonnes, de penser des magistrats, je dirais, légitimes et qui cherchent le bon, en quelque sorte, le bien commun. Et donc, si on ne peut pas penser ça, on est uniquement dans des rapports de force. Et là, on est dans la barbarie.
Et finalement, en RDC, c'est vraiment ça aussi. C'est
ça.
La question.
C'est
l'énorme chantier.
C'est ça le chantier.
Et c'est aussi grave que ça, on peut le dire comme ça.
Ouais, c'est tout à fait ça.
D'où le fait aussi aussi que, alors on parlera aussi du bilan de ce colloque, mais il y a tout de même quelque chose qui en a émergé, c'est la création d'une association Henri Coeur africaine autonome. Donc voilà.
Alors ça, c'est un des résultats absolument involontaires pour ma part. C'était pas du tout mon idée. Comme ils étaient dans le même hôtel, tous, ils étaient quand même nombreux, ils étaient au moins une quarantaine dans le même hôtel.
C'est ça, de penseurs, philosophes, historiens.
Ouais, c'est ça, tous mélangés. Et de plein de pays, on a essayé de mettre le maximum de dames et aussi le maximum de doctorants. On y avait parmi eux, il y avait au moins une quinzaine de doctorants parmi les intervenants. Et on a donné à tous le même temps d'ailleurs d'intervention.
D'accord, voilà. Il y avait cette rigueur-là.
On a essayé de faire l'égalité. Et donc ils sont vus entre eux, là, tous ceux qui avaient vraiment parmi eux, il y en avait pas mal qui avaient travaillé Ricoeur quand même. Ils sont vus entre eux, ils ont dit ah, mais il faut qu'on fasse une association Ricoeur pour l'Afrique. Et donc ils ont créé ça. Le siège sera basé pour le moment à Brazzaville. Et puis il y en a
de l'autre côté du fleuve.
Ouais. Parce que là il y avait un petit noyau très actif, et puis il y en a beaucoup au Cameroun et puis à d'autres endroits, mais voilà, ils ont fait cette...
Quels sont, alors je ne sais pas si c'est les moments, les instants, les paroles, qu'est-ce qui a été échangé qui vous a le plus touché peut-être, Olivia? Mais d'abord, déjà rien que le fait d'avoir réussi à monter un colloque pareil, alors vous n'étiez pas tout seul, vous avez été beaucoup soutenu et aidé, mais quand même, qu'est-ce qui vous a le plus touché?
Ce qui me touchait le plus, c'est justement d'abord de voir qu'il y avait des très jeunes doctorants qui faisaient déjà des travaux tout à fait remarquable.
Sur les questions de la mémoire.
Oui, c'est ça. Donc des bons connaisseurs de Ricoeur qui creusaient, qui reprenez le geste pour aller plus loin dans plusieurs directions. Et ça, c'est des germes de futur très prometteurs. Bon, il y a ça. Il y a aussi, je dirais, le mélange. Ce qui est très touchant, c'était le mélange des genres. Mm-hmm. Parce que justement, ce n'était pas un colloque de philosophie.
Ce n'était pas
un colloque de savants. Il y avait cette dimension interdisciplinaire aussi avec des gens qui sont des praticiens qui, concrètement, par exemple, il y avait toute une équipe de Bukavu qui travaille autour de l'hôpital Panzi, donc les réparations des femmes violées, abîmées par les violences, etc. Et donc là, il y avait tout un groupe qui venait de Bukavu et qui, eux, sont dans des questions très concrètes parce que ils continuent à avoir des éleveurs qui traversent des régions d'agriculteurs avec des meurtres, avec des
c'est ça, des on n'est pas dans la mémoire, on est dans le présent.
C'est pas fini du tout, c'est ça.
Voilà,
c'est ça. C'est qu'on fait un colloque sur la mémoire, l'histoire, l'oubli, mais là, on est, c'est comme si les choses continuaient. On est sur un volcan actif, hyper actif. Ça continue, les drames continuent et ils vont, comme le disait Aristel à l'instant, on est dans un ressassement dans lequel on va continuer à perpétuer les mêmes chose qu'on a subi parce qu'on est pas parvenu à en sortir.
C'est ça. Vous étiez en plein dedans. Et comment en sortir tout de même, en parlant, en y pensant, en faisant même un spectacle de danse. Oui. Qu'est-ce qu'a dit le chorégraphe?
Oui, il y a un chorégraphe magnifique. Il y avait une chorégraphie sur mémoire oubli simultanée. Et donc, un chorégraphe de Damien, je crois, qui est arrivé et qui présentait qui a fait travailler pendant 3 jours des danseurs. Et il leur a posé une question.
Parce que la scène, elle est extraordinaire. La scène sur place à Kinshasa, la scène artistique.
En 3 jours, ils ont monté un spectacle extraordinaire sur la mémoire et l'oubli, et il leur a posé la question: est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez oublier? Vous entrez sur la piste les yeux fermés en essayant d'exprimer ce que vous voulez oublier, ou au contraire d'exprimer ce dont vous voudriez vous souvenir. Allez-y. Voilà, c'est comme ça qu'il les a. Et il y avait parmi eux des gens qui disaient: mais moi, j'ai perdu ma famille. Notre population, la ville était chassée. On était sur les routes. On n'a pas pu enterrer les parents. On a dû continuer à marcher. Bon, des choses absolument dramatiques. Et là, qui datent d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans, des choses récentes, vous voyez.
Autour de la question, comment justement penser, à tous les sens du terme, les mémoires blessées et les promesses inachevées, en écho évidemment à la pensée de Ricoeur, depuis Kinshasa, on a eu envie de vous proposer justement le meilleur de la scène musicale et artistique congolaise, si créative aujourd'hui, envers et malgré tout, la preuve avec ce morceau qui s'appelle Makonda, du groupe phare de Kin, les Konono numéro 1, avec des DJ sud-africains, très trans, de Montparnasse Musique, et le collectif danseurs, artistes et sapeurs Boko, vidéo à regarder sans modération et trance musicale tout de suite sur RFI.
Bakonda sisi diwa na kongo ni
Parnasse Musique et Konono numéro 1 sur RFI à Kinshasa, où vous nous écoutez sur 105 FM et où vient de se dérouler le colloque international Mémoire blessée, promesses inachevées, autour de la pensée de Paul Ricoeur, un colloque international qui a rassemblé plus d'une soixantaine de penseurs, de chercheurs du continent et d'ailleurs, à l'initiative de notre invité, le philosophe Olivier Abel. Et encore, tous les plus grands penseurs du continent n'ont pas pu répondre à votre appel, comme notamment le philosophe Souleymane Bachir Diagne, qui avait repris ses cours à l'Université Columbia aux États-Unis à New York, mais qui nous a laissé ce témoignage. On l'écoute.
Il y a deux aspects qui m'ont profondément influencé dans la pensée de Paul Ricoeur. L'un des premiers aspects, c'est la notion d'hospitalité qu'il élargit précisément à la traduction. Le sous-titre de mon livre, De langue à langue, l'hospitalité de la traduction, le sous-titre est profondément du Paul Ricoeur. Et c'est un point qui me semble important. Un autre point qui me semble très important, c'est la pensée de la fraternité chez Paul Ricoeur. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où nous avons besoin de fraternité, où nous avons besoin de faire de la fraternité une politique. Parce que faire humanité ensemble, c'est faire de la fraternité pas simplement un principe moral ou un principe qu'on évoque sans trop savoir quoi en faire, mais avoir une traduction politique, philosophique, éthique et politique de la fraternité. Paul Ricoeur relie le fameux mythe biblique et coranique du meurtre de Caïn qui tue Abel. Caïn tue Abel, ça veut dire qu'il détruit la fraternité biologique, mais cela nous donne la responsabilité d'inventer une fraternité qui ne sera pas biologique précisément. D'inventer une fraternité avec quelqu'un avec qui je n'ai aucune relation. Et c'est la parole biblique aussi. Quand la question est posée, qui donc est mon prochain ? Répondre que mon prochain, ce n'est pas forcément mon proche. Et faire humanité ensemble, c'est comprendre cela, que mon prochain n'est pas forcément mon proche. Et je crois que dans une conférence sur la pensée de Paul Ricoeur, cette pensée profonde de la signification de la fraternité devrait avoir toute sa place.
N'est-ce pas, Olivier Abel ? Je suis sûr que vous voulez réagir à ce magnifique éclairage de Souleymane Bachir Diagne.
Merci à lui d'évoquer c'est un très vieux texte de Ricoeur de 1955 qui s'appelle « Le socius et le prochain », dans lequel Ricoeur a dit « Mais le prochain ». Le prochain, ce n'est pas le proche. D'ailleurs, il reprend la parole de Jésus, qui retourne la question. Il dit, mais qui est mon prochain ? Et Jésus fait une parabole qui se termine par, mais qui a été le prochain de l'homme tombé à terre ? Le prochain, c'est moi en tant que je m'approche de quelqu'un que je ne connais pas. L'homme tombé à terre, que je ne connais pas. Voilà, bon. Et donc, je suis aussi bien... Le prochain, c'est aussi bien à travers des institutions, dit Ricoeur, que dans les relations courtes. C'est aussi bien les relations longues à travers les institutions, à travers... Mon prochain, je l'atteins à travers l'économie, je l'atteins à travers les télécommunications, les postes, à travers les services sociaux, à travers... C'est là, mon prochain, ce n'est pas uniquement le proche. Et sur la fraternité, aussi un autre point très important, je pense, parce que la notion que Souleymane Bachir Diagne soulève, la fraternité, Le frère, c'est justement quelqu'un qu'on ne choisit pas.
Et ce qui
m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'on est de plus en plus dans des sociétés de liens choisis. On choisit ses proches, on choisit ses...
On reste entre soi et l'autre.
On ne choisit pas. Le frère, on ne choisit pas. Et c'est comme ça, il faut faire avec. Et bien maintenant, l'humanité, il faut faire avec. Il faut faire avec ceux qui sont là. On est là ensemble. On est embarqués dans le même destin.
C'est ça, on est embarqués dans le même destin à Kinshasa, à Paris, à Yaoundé, à Johannesburg, comme à New York.
Comme disait Mireille Delmas-Marty, maintenant, il nous faut des déclarations d'interdépendance. Ça suffit, l'indépendance. Aujourd'hui, on a besoin de penser l'interdépendance. Oui.
Et l'indépendance, au-delà, j'ai quand même envie de citer Olivier Abel, votre dernier ouvrage, qui portait sur l'humiliation.
Oui.
Parce que c'est le contraire de ça, en fait, l'humiliation.
Oui.
Et c'est un mal dont on souffre, et dont il y a de quoi souffrir sur le continent aussi.
Alors là, en Afrique, je pense que y a l'humiliation, il y a les couches d'humiliation
ne cessent d'enfoncer
l'Afrique. Ne serait-ce que notre politique de visa, ne serait-ce que la manière dont nos pays se ferment avec justement des hyper-protections dont nous ne mesurons pas à quel point elles sont terribles. Elles sont très douces vues de l'intérieur, elles sont extrêmement dures vues de l'extérieur.
Et vous avez été confronté à ça en organisant ce colloque. C'est très compliqué, que ce soit les plus grands chercheurs, penseurs, universitaires.
Absolument, tout le monde. Voilà, les plus grands, c'est ça. On ne sait pas, on dirait qu'on les traite avec un mépris qui aura des effets qui ne cesse d'avoir des effets sur un futur lointain, parce que l'humiliation, c'est très important, a des effets à long terme. Ça crée quelque chose qui est... C'est pas du tout... La violence, c'est court, mais l'humiliation, c'est long. C'est un circuit très long. Ce que ça dévaste, c'est le circuit de la reconnaissance. Et donc, ça dévaste à long terme la possibilité
de l'échange. Et comment est-ce qu'on peut réparer ça? Parce que vous avez parlé de réparation, de promesses aussi inachevées. On est là aussi, en plein dedans.
Ben, je pense que, justement, d'abord, c'est un travail de parole. C'est un travail ce qui est humilié, c'est le sujet parlant. C'est les traiter non pas comme des gens comme du cheptel, mais comme des sujets parlants. Mm-hmm. On parle avec eux, et non pas avant, on ne parle pas d'eux. C'est bien joli l'anthropologie africaine vue d'en haut. Non, il s'agit de parler avec.
Bien sûr.
C'est ça.
Nos frères humains et nos sœurs humaines.
C'est ça qu'on a voulu faire dans ce colloque. Parler avec.
Autour de la question, comment parler avec, justement, pour penser les mémoires blessées et les promesses inachevées depuis Kinshasa et pourquoi c'est essentiel où qu'on soit dans le monde. Je vous propose d'écouter une autre voix congolaise, justement. C'est celle d'Arlette Massamouna. Elle est professeure de communication à l'Université pédagogique de Kinshasa. Elle était tout ouïe pendant tout le colloque du 25, 26, 27 avril. Elle explique pourquoi à notre reporter Charlie Dupiot qui lui demandait justement ce que lui fait, comment résonne en elle ce thème des mémoires blessées.
Le continent africain a subi plusieurs blessures depuis l'époque coloniale jusqu'à maintenant. Et le Congo en particulier, avec cette guerre où on commence à compter les morts en millions, et ce n'est pas tout, où on assiste à beaucoup d'exactions, surtout aux violences sexuelles perpétrées aux femmes. Et ces colloques m'ont beaucoup appris parce que, en venant à ces colloques, nous n'avons pas seulement rencontré des théoriciens, mais nous avons rencontré aussi des praticiens, de gens qui essayent à soulager la souffrance de beaucoup de gens. Pas seulement la souffrance physique, il y a aussi la souffrance mentale, la souffrance psychique. Et donc, nous avons eu des psys à ces colloques-là. La pensée d'Eric Coeur sur la mémoire, l'histoire et l'oubli nous a aidés à pouvoir faire comme une sorte d'autopsie de cette situation douloureuse, d'en prendre connaissance, mais aussi de faire quelques propositions thérapeutiques.
Pour vous, quel rôle doivent jouer les intellectuels africains sur ces questions de mémoire blessée?
Par rapport aux intellectuels africains ou à l'élite africaine en général et congolaise en particulier, je dirais que cette élite a la responsabilité de pouvoir reconstruire l'Afrique, de pouvoir reconstruire le Congo, de pouvoir tout reconstruire, parce que les mémoires blessées ne peuvent pas rester blessées éternellement ou de façon perpétuelle. Elles doivent être pensées et doivent guérir par la suite. Et donc l'élite a la responsabilité de pouvoir contribuer à cet effort de réparation. Et la manière de contribuer effectivement à cette réparation, par exemple, c'est de pouvoir répondre de façon généreuse, mais de façon aussi nombreuse à ces genres d'initiatives qui réfléchissent sur ces questions qui nous concernent, ces questions existentielles. Et deuxièmement, c'est d'être aussi proactif et à faire en sorte que notre continent, notre pays aille de l'avant. Et nous ne pouvons pas le faire en autarcie, et donc nous ne pouvons que le faire en étant avec les autres.
Vous voulez réagir à ces propos d'Arlette Massamouna depuis Kinshasa, Olivier Abel ?
Oui, j'éprouve la même chose que ce qu'elle dit. Je pense que elle disait proactive, par exemple. Cette dimension de créativité, je pense que les personnes que j'ai rencontrées qui m'ont donné le plus d'espoir, je pense par exemple à André Yoka Lié, par exemple, qui est un écrivain, un scénographe, un artiste, etc. Bon. Qui écrit des petites nouvelles. Il m'en continue à m'envoyer parce qu'il écrit beaucoup comme ça, des petites oui. qui sont des aperçus sur la vie quotidienne, parfois d'une noirceur épouvantable, mais il le dit avec une sorte de force de vie.
C'est
une
ça.
Sorte de générosité, une sorte de voilà, il y a on sent une vitalité dedans qui balaye tout, quoi, dans lequel je ne sens pas de ressentiment au sens le venin de quelque chose qui viendrait en quelque sorte je dis pas qu'il faut pas accuser, hein, c'est important l'accusation dans la plainte, il peut y avoir de l'accusation, mais je dirais avoir plus de force que ça, quoi.
C'est ça, plus une énergie vivante, malgré ça, tout, enfin, qui se renforce presque.
Voilà, ça, j'ai senti ça chez lui. J'ai senti ça chez, par exemple, une autre personne de l'université protestante qui s'appelle Lise Vibila, par exemple. Chaque fois que je parle avec elle, je sens une femme plantée dans la vie, en dépit de toutes les difficultés qu'elle traverse concrètement dans sa propre vie. Tous, ils ont des difficultés, c'est très concret. Bon. Et en même temps, on sent une pêche extraordinaire. Et on le voit d'ailleurs sur la créativité de la scène artistique à Kinshasa.
C'est ça qui
fait penser un peu
à
ce qu'était Haïti, en tout cas, ce qu'on sent parfois de la société. Mais là, il y a quelque chose qui est étonnant.
C'est ça, où à la fois, il y a le drame, enfin la tragédie, la barbarie la plus terrible, et là-dedans, il y a aussi une vivacité. Et du coup, on parle de réciprocité autour de Paul Ricoeur. Du coup, ça vous enseigne, ça vous apprend, ça vous change, vous aussi,
ça me change, ça me change complètement. C'est parce que, c'est bouleversant de sentir ça, parce que on a le sentiment que les choses sont rationnelles, etc. Mais là, il y a quelque chose qui dépasse complètement. Mais par exemple, je rencontrais j'ai été reçu par le président du Sénat, le vice-président du Sénat et quelques sénateurs. Ils me faisaient parler sur l'éthique de Ricoeur. Et à la fin, le président du Sénat a dit « Oui, mais c'est bien joli la morale de Ricoeur, tout ça, mais les hommes sont égoïstes. » En fait, je pense qu'il parlait de lui-même. Excusez-moi. Les gens sont égoïstes. Et je dis « Non, mais en fait, vous ne vous rendez pas compte à quel point les hommes sont capables de se faire du mal pourvu d'en faire à leur ennemi, de manière pas du tout égoïste, de manière complètement suicidaire. Les humains sont beaucoup plus terribles que ça, mais aussi ils sont beaucoup plus généreux que ça. Ça va plus loin dans les deux sens. Mais ça, ce genre d'expérience que j'éprouve à la lecture des tragiques grecs, je l'éprouve complètement dans le vécu que je rencontre à Kinshasa.
Dans le vécu que vous avez rencontré à Kinshasa et dans ce colloque que vous avez donc réussi à organiser envers et malgré tout. Je propose d'ailleurs de retrouver tout de suite, vous ne l'avez pas réalisé tout seul, hein, organisé tout seul évidemment, justement au micro notre reporter Charlie Dupiot, un de ceux qui a énormément contribué à l'organisation, au succès de ce colloque auprès des intellectuels congolais. C'est le docteur en philosophie David Leduc Tiaha. Il est membre du conseil scientifique du comité Ricoeur. Et David Leduc Tiaha répondra aussi ensuite dans cet éclairage à une question de notre précédente intervenante, Arlette Massamouna. Comme ça, vous voyez, ça se réciproque et se parle dans tous les sens. Mais d'abord, il a expliqué au micro de Charlie Dupiot pourquoi ce thème des mémoires blessées éveille et réveille tant de problématiques sur le continent.
Alors, le thème des mémoires blessées, ça évoque chez moi plusieurs choses. Ça évoque d'abord ce qu'on peut qualifier de spectre du trauma qui règne sur l'Afrique. Et ce spectre a trois figures. Il y a l'esclavage, la colonisation et l'apartheid. Et sur la question de l'esclavage, on verra que dans une région comme dans le royaume Bamoun au Cameroun, par exemple, à l'ouest Cameroun, la question mémorielle de l'esclavage, qui a été en fait une réalité de l'organisation de ce royaume, reste tabou jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'en fait, il y avait des castes d'esclaves qui étaient reconnus et qui avaient un rôle dans cette société traditionnelle. Aujourd'hui, c'est une question qui reste taboue. Et on a eu un jeune chercheur, un jeune historien camerounais qui est venu présenter en fait la problématique à la fois sous l'angle mémoriel et politique de l'esclavage dans le royaume Bamoun au Cameroun. Donc, ce qui fait que c'est une question qui est encore vive dans beaucoup de sociétés africaines, mais qui reste taboue. Par contre, une société comme le Bénin a réussi à élucider ce rapport au passé et a essayé de mettre en place ce qu'on appelle les itinéraires du passé de l'esclavage au Bénin. Elle s'est appropriée ce passé et l'assume aujourd'hui de manière claire. Mais au Cameroun, le Cameroun n'est pas encore arrivé à ce niveau de clarification de son rapport à l'esclavage.
Et justement, quel doit être le rôle des intellectuels, historiens ou philosophes camerounais, béninois, dans cette compréhension du passé lié à l'esclavage ?
C'est des questions existentielles. Parce qu'en fait, j'ai toujours estimé que si ce rapport au passé ne fait pas l'objet d'une réflexion, d'une prise en charge, et même l'objet d'un échange collectif sur ces questions, il est difficile pour l'Afrique de se projeter tant qu'elle n'assume pas ce passé et se soigne aussi collectivement vis-à-vis de ce passé pour qu'en quelque sorte, il faut tirer du passé des figures d'exemplarité qui permettent de relancer une promesse d'avenir dans le futur à partir de présent. Et ce travail, tant qu'il n'est pas fait, on subit l'histoire en fait. Parce qu'en réalité, il faut dire que l'histoire, nous faisons l'histoire, comme dit Ricoeur souvent, nous faisons de l'histoire au sens de l'historiographie, mais nous sommes aussi faits par l'histoire. Et moi, ce qui m'intéresse le plus en tant que philosophe, c'est comment nous sommes faits par l'histoire. Comment mon histoire personnelle rencontre l'histoire de tous. Comment ma mémoire personnelle s'articule à la mémoire collective. Je me suis aperçu aussi que la question de la mémoire et de l'histoire est aussi une question très vivace en Afrique qui permet aussi de mieux comprendre l'Afrique par cet autre biais.
Alors, il y a une question qui vous a été posée par Arlette Massamouna. Donc, je vous propose de l'écouter.
Bonjour, cher Tia David Leduc. Pensez-vous que la rencontre de Kinshasa sur Paul Ricoeur constitue un véritable arbre à palabres pour la réparation de blessures par rapport à notre thématique sur le mémoire blessé.
Oui, je remercie le professeur Arlette Massamouna de me poser cette question que j'ai eu le plaisir de faire la connaissance à Kinshasa. Alors, je dirais que la première étape, en fait, de ce que le colloque a provoqué, le colloque a créé un espace de discussion pour les intellectuels congolais à affronter par les biais de l'histoire, par les biais de la thérapie, de la psychothérapie, par les biais de la philosophie, d'affronter une question aussi massive qui concerne le peuple congolais, mais qui concerne aussi la plupart des peuples africains depuis les indépendances. Pour moi, ça me réjouit, c'est une brique qui a été posée. Maintenant, à eux de prendre la relève pour la suite en déplaçant le problème sur le terrain, ça peut être aussi une question de formation. C'est-à-dire qu'un professeur de philosophie, dans le cadre de son cours, aborde les questions de mémoire et d'histoire à l'université, ça permet déjà à ses étudiants de s'approprier la question des mémoires blessées, que ce soit en philosophie ou chez les historiens en faculté, dans le département d'histoire. Et comme ça, ça devient déjà un point de départ où collectivement, dans les milieux universitaires, la question est présente et progressivement, elle va trouver sa place dans la société.
Vous écoutez Autour de la question, Caroline Achowski.
C'est bien le meilleur qu'on puisse se souhaiter collectivement et individuellement, haut les cœurs donc, à Kinshasa, comme à Bukavu et Goma, où vous nous écoutez sur 98 FM. On vous dédie cette rumba incontournable, évidemment, de Taboulé Rochereau, qui a fait danser des générations de terriens et de terriennes, et sur lesquelles vous avez même dansé, Olivier Abel, je crois. Hein, ben oui, je crois bien. Comme tous les participants, ou presque participantes du colloque, avec une spéciale dédicace au formidable écrivain congolais André Yokalié, qui avait organisé cette soirée rumba congolaise. On écoute Taboulé Rochereau, évidemment, sur RFI.
Encore un si naloti lokola ngana kolala ah mama mokolo na kokufa mokolo na kokufa nani akolelanga na koyeba te oteta na milela liwa ya zamba soki pe liwa ya mboka liwa ya mpasi soki pe liwa ya mayo mama mokolo na kokufa Motu ya pauvre, na kanisa ida mwasi na bala, na kanisa kaka bano yo na bota, na sepela kaka mpasi ya mokili esali kotikala mokolo na kokufa. Mokolo na kokufa ngai motu ya mbongo, na kanisa falanga mingyo yo na tiki, na kanisa lopango na baka minyo, na kanisa bana angana Poto mama, mokolo na kokufa. Mokolo na kokufa ngai motu ya kwiti, na kanisa kopo ya masanga nanga, na kanisa nini kaka suka ya sanza tango na melaka ngai na baninga. Ah mama, mokolo na kokufa. Mokolo na kokufa ngai mwasi ya ndumba.
Taboulé, le grand taboulé Rochereau sur RFI. Et oui, il y avait même une soirée rumba congolaise au programme du colloque autour de la pensée de Paul Ricoeur et des horizons africains que vous avez organisé, Olivier Abel, à Kinshasa le 27 avril dernier. Comme quoi on peut penser, philosopher et s'ambiancer. L'un n'empêche pas l'autre, au contraire même, et nous permet peut-être de nous sentir entièrement, pleinement vivants. Autour de la question comment penser les mémoires blessées et les promesses inachevées depuis Kinshasa comme ailleurs, je propose un dernier éclairage vu d'ailleurs, justement vu de Berlin. C'est celui de l'essayiste et écrivain Camille de Toledo qui tente lui aussi de penser à partir de nos ruines d'autres futurs. On l'écoute.
En somme, c'est une de mes questions, moi, c'est comment est-ce qu'on desserre l'étau du présent ? Et le discours, depuis que je suis enfant, c'est « there is no alternative », il n'y a pas d'alternative. Il n'y a qu'une issue, en fait, il n'y a pas d'issue. C'est comme ça, c'est le progrès, c'est le capital. C'est la... Donc, en fait, sur la question des récits, comment est-ce qu'on rouvre des récits de futurité, de possible de... Comment est-ce qu'on remet du possible dans le monde ? Et Ricoeur avait cette très belle chose où il dit « il faut être très attentif au futur inaccompli du passé ». C'est-à-dire, très concrètement, à quoi rêvaient les humains du passé que nous avons laissés de côté, en fait. Et est-ce qu'on ne peut pas reprendre ces futurs inaccomplis du passé pour être à nouveau des relais de ça pour l'avenir ? Et c'est cette articulation des temps que je trouve très belle. C'est-à-dire qu'on rouvre les futurs à partir du passé. Ce qui est d'ailleurs en lien avec la tradition, en fait. On réinterprète un texte pour lui faire cracher des significations nouvelles. Donc sans cesse, ce va-et-vient entre passé, présent, futur. Pour réouvrir le présent, il faut replonger dans le passé. Et aller chercher des récits inachevés ou inaccomplis pour transformer l'avenir.
C'est aussi ce que vous avez essayé de faire, Olivier Abel, principalement à Kinshasa, avec tous ces penseurs africains. Je trouve ça magnifique, hein, finalement, essayer de reprendre à notre compte les futurs inaccomplis du passé.
C'est ça. Et alors, on peut le prendre de plusieurs manières. On peut le prendre à travers des traditions, parce que les traditions sont inachevées. Mm-hmm. Lorsqu'Habermas disait que voilà, la modernité est un projet inachevé, mais il n'y a pas que la modernité. Toutes les traditions sont des projets inachevés. Si elles sont remises ou mises en état de fidélité créatrice, elles peuvent apporter encore. Et c'est pas
le contraire
fini.
Du dogme, c'est le contraire,
voilà, c'est le contraire
du blocage.
Dogme. C'est le contraire de la sclérose dans des dogmes et dans des. Non, le contraire. Mais il y a une autre manière, que c'est lié d'ailleurs, c'est inséparable, et qui est un petit peu ce qu'on a essayé de faire en mêlant des artistes. Justement, il y a des voix artistiques, il y a des voix de praticiens, il y a des voix d'historiens, il y a des voix de philosophes, il y a des voix diverses. Mais le mélange des genres, voilà, ça, c'est quelque chose qui permet de penser ça. Je pense, là, j'ai sous les yeux aussi une citation de Ricoeur où il disait « Une des fonctions de la fiction mêlée à l'histoire est de libérer rétrospectivement certaines possibilités non effectuées du passé historique ». Et il continue, le quasi-passé de la fiction devient ainsi le détecteur des possibles enfouis dans le passé effectif.
Ah, c'est extraordinaire, parce qu'on a tant besoin de ça aujourd'hui, tous et toutes sur Terre. C'est comment, finalement, refaire vivre ces promesses inachevées, inaccomplies, pas être dans le ressentiment, mais refaire vivre, penser les blessures, les reconnaître, évidemment, d'abord. Voilà. Mais ensuite...
Reconnaître, c'est ça. Et il le disait très, très bien, il faut desserrer l'étau du présent.
Ouais,
Nous sommes dans des sociétés hyper présentistes, qui en quelque sorte d'ailleurs se remodèlent un passé à leur image, qui est un passé complètement étriqué, et un futur à leur image qui est aussi étriqué. Non, il faut élargir la respiration, reprendre appui sur des traditions
vivantes. Et desserrer les cases dans lesquelles on est enfermé, et les malédictions, j'ai envie de dire, aussi, dans lesquelles vivent aujourd'hui... certains peuples, et notamment en RDC, où vous avez montré le colloque.
C'est ça. Mais pour cela, je pense que c'est très important d'accepter de repartir de là où on est chacun.
C'est ça.
Ricoeur a cette formule extraordinaire dans ce grand texte sur le dialogue des cultures, où il dit « Pour rencontrer un autre que soi, il faut avoir un soi ».
C'est une très belle phrase. Qui on est et d'où on est.
C'est ça. Il faut accepter d'avoir une étroitesse d'engagement et se tenir. Il dit « Ici, je me tiens. Moi, je me tiens là ». Et à partir de parce que j'accepte de me tenir là, je peux rencontrer quelqu'un d'autre.
Je peux rencontrer l'autre, je peux m'ouvrir à l'autre. Voilà. Des suites, puisqu'on arrive à la fin de cette émission, il y a des suites à ce colloque.
Oui, nous espérons. Alors, donc, il y en avait eu un petit colloque l'an dernier sur Ricoeur. Mais là, ces années, c'était vraiment. Ricoeur était un prétexte pour rouvrir, brasser toutes ces questions d'histoire et de mémoire. L'an prochain, nous voudrions faire la même chose, mais peut-être à Bukavu, c'est un petit peu encore incertain.
Au cœur même du cyclone, à Bukavu.
Dans l'œil du cyclone, dans la région des Grands Lacs, parce que c'est là que sont tous les conflits qui ne sont pas finis, et pour essayer peut-être, avec quelques amis là-bas, l'Institut français qui nous avait accueillis à Kinshasa, il y a un autre institut français et qui existe à Bukavu, et on espère pouvoir poursuivre à Bukavu. Ils ne le savent pas, peut-être pas, ils l'apprennent s'ils écoutent cette émission.
Mais en tout cas, nous, on va vous suivre et on croise les doigts. Un grand merci, Olivier Abel, d'avoir été en direct avec nous. Merci à tous les intervenants et intervenantes inspirants de ce colloque. Et merci à notre reporter, Charlie Dupio.
Trouvez autour de la question sur les réseaux sociaux et sur RFI.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez aussi nous suivre tout à l'heure en rediffusion à 23h temps universel et vous abonner à notre podcast. Au plaisir de vous retrouver lundi pour une émission astronomique et gastronomique. Nous partagerons des lentilles célestes et du soleil au pouls, au plat. Oui, c'est ça. Autour de la question, qui a mangé la soupe primordiale et pourquoi les métaphores culinaires s'appliquent si bien à l'espace en compagnie de deux géniaux astrophysiciens et d'une documentariste cuisinière. Carrément. Avec Thibaut Baduel à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses. Un grand merci pour votre curiosité et votre interactivité. Surtout garder l'esprit libre et ouvert à tous les possibles, ici comme ailleurs. À l'écoute de RFI, ce sera bientôt l'heure des informations.